Confidence sur la cuvette.
Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez ?
Puisqu'on en est aux confidences, je vais t'en faire une de confidence.
Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur.
Je t'ai dit que ça soulage.
Confidence sur la cuvette.
Être libre de choisir sa mort en fin de vie, voilà un sujet qui fait mouche. Accompagner un proche malade qui a choisi de mourir, est-ce une preuve ultime d'amour ? Comprendre, accepter, soutenir ou pas. Ici, point de règle, point de loi. Chacun fait avec ce qu'il a. C'est une confidence sans tabou aujourd'hui sur la cuvette.
Ah oui, là je commence à entendre tous les petits bruits. Vas-y quoi, je ferme la porte.
Bonjour, je m'appelle Nadia, je vais bientôt avoir 50 ans et j'ai accompagné ma maman dans sa demande d'euthanasie.
Alors les toilettes, c'est vrai que ça me fait plus penser à maman qu'à moi. Enfin moi, dans ma vie en général, je pense que comme pour beaucoup de gens, c'est un endroit où je peux me réfugier quand j'ai envie de 2 minutes de solitude dans un endroit où décidément c'est pas possible de s'isoler. Pour maman, c'était aussi un symbole d'autonomie, les toilettes. Tant que je peux aller aux toilettes toute seule, ça vaut encore un peu la peine. Je n'avais jamais vraiment discuté d'euthanasie. Enfin, en fait, j'en avais toujours parlé, jamais parlé. C'est-à-dire qu'il avait toujours été clair entre elle et moi qu'il n'y avait pas de raison de poursuivre la vie au-delà du raisonnable, j'ai envie de dire. Enfin, je savais que si un jour elle était très mal en point, très diminuée, elle ne souhaitait pas qu'on la maintienne en vie contre toute raison. Et en même temps, la demande est venue de façon assez brutale, finalement, dans la foulée du diagnostic qu'on a posé d'un cancer qui était en fait un cancer très agressif. Et donc, à ce moment-là, les choses se sont vraiment enclenchées très rapidement et on est passé très rapidement dans le concret, quoi. J'étais prof de morale et donc j'abordais évidemment cette question avec mes élèves. Et l'euthanasie, pour moi, c'était en fait assez proche de ce qu'on a vu encore récemment dans les médias avec Vincent Lambert.
En France, c'est la fin d'une longue saga familiale autour d'un homme, Vincent Lambert. Ce tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans est décédé ce matin après l'arrêt des traitements. Vincent Lambert, victime d'un accident de la route, a incarné, bien malgré lui, le débat sur la fin de vie. Sa famille s'est déchirée sur son sort.
La question me paraissait assez claire. Je me disais, oui, évidemment qu'il y a des conditions dans lesquelles ce qu'on appelle vie n'est plus une vie et il faut évidemment aider certaines personnes à mourir parce qu'il n'y a plus qu'un fil qui les maintient à la vie et que ce fil ne leur procure plus aucun plaisir, aucune joie, aucun agrément. Et donc l'idée que je m'en faisais, c'était ça, c'est couper ce fil ténu, j'ai envie de dire, qui relie encore certains d'entre nous à une vie qui n'en est plus vraiment une. Et en fait, avec maman, j'étais confrontée à toute autre chose, parce que maman, j'ai envie de dire que c'était le jour de sa mort, c'était une des plus vivantes de la maison de repos. Moi, j'étais vraiment dans une position très, très bizarre, et je pense que c'est ce que je retiens, et ce que je retiendrai sans doute toute ma vie de cette expérience, c'est que j'étais en fait... je dirais complètement déconnectée de moi-même, en fait. C'est-à-dire que pendant ce mois où j'ai accompagné maman, entre cette première formulation de sa demande et l'exécution, entre guillemets, de cette demande, en fait, j'étais vraiment dans la volonté très forte de faire en sorte que sa volonté se réalise, en fait. Et donc, j'ai envie de dire que j'étais un peu déconnectée de mes propres émotions, en fait. Je me battais avec elle pour ce qu'elle voulait et que je trouvais juste qu'elle obtienne. Et donc, je me retrouvais parfois à me dire mais qu'est-ce qui me prend ? Je me réjouis parce que voilà, ça y est. Elle a obtenu le droit de mourir parce qu'on vient de décider de la date. Et tout ça, c'était des bonnes nouvelles, avec tous les guillemets qui s'imposent. Mais pour elle, c'était des bonnes nouvelles. Et donc, du coup, pour moi, c'était des bonnes nouvelles aussi. Et en même temps, c'était absolument effarant de me regarder, de me dire, mais comment est-ce que je peux considérer que ce sont de bonnes nouvelles ? Je ne sais toujours pas comment j'ai fait, en fait. Je me demande souvent si je ne suis pas toujours dans cette période de deuil, en fait, où le travail n'est pas achevé, s'il n'y a pas un jour où je vais enfin me laisser aller à me reconnecter à moi et à craquer, quoi, tout simplement. Mais pour le moment, c'est pas arrivé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai géré, je ne sais pas si j'ai pas encore géré. J'en sais rien, je ne sais pas. La date s'est choisie de manière, je dirais, très banale, en fait, comme on aurait choisi une date pour aller acheter une robe ou pour aller boire un verre. On a ouvert nos agendas, tous, maman, les médecins, moi, et on a essayé de trouver un moment où tout le monde était libre. Alors à partir du moment où la date a été fixée, en fait je pense que la volonté de maman a été clairement de ne rien changer au quotidien. Et ça aussi c'était, je trouvais que c'était difficile parce que c'était terriblement artificiel. Je savais très bien quand j'allais la voir qu'il me restait autant de fois à la voir avant sa mort. Et maman ne voulait justement pas de ça. Elle me faisait sentir qu'en fait elle voulait que tout reste exactement comme avant, c'est-à-dire très, très banale, avec des petites conversations sur ce qu'elle avait mangé à midi, sur si elle avait bien dormi, sur sa voisine de chambre qui faisait beaucoup de bruit la nuit et qui l'empêchait de dormir. Et en même temps, moi, de mon côté, j'avais cette envie très, très fantasmatique de me dire, bah, allez, on va se dire des choses importantes maintenant, parce que après, ce sera plus possible. Et en même temps, grandissait en moi l'idée qu'en fait, on n'avait rien d'important à se dire. Parce qu'en fait, quand la mort est là ou est presque là, en fait, il reste plus grand chose d'important à dire. Je veux dire, la seule chose qui reste importante, c'est de se dire qu'on s'aime, je pense. Et ça, j'en ai pris conscience, je crois, progressivement pendant ces quelques semaines, de finalement, peut-être que dans les films que je m'étais fait, je m'étais dit un jour il faudra quand même que je lui dise que je lui en veux pour ça, que je lui ai pas pardonné ça, que etc. Et puis en fait quand sa maman va mourir dans une semaine, on se dit à quoi bon quoi, c'est fini tout ça, c'est plus important. Par rapport à maman, c'est à ça que je suis arrivée comme conclusion. Je me suis dit en fait, si je l'aime, je dois accepter que ce qu'elle veut, c'est mourir, qu'elle a le droit de décider, que moi, j'ai pas le droit de venir lui dire « Mais non, il est trop tôt, t'as encore plein de choses à vivre, secoue-toi un peu, essaye d'encore trouver du sens à l'existence. » Enfin, je me donnais pas le droit de me conduire comme ça avec elle. Mais je sais pas, moi, ce que c'est d'avoir 86 ans, d'avoir des tas de douleurs un peu partout, d'avoir du mal à lire un livre plus d'un quart d'heure parce qu'on a mal aux yeux. Enfin, la grande leçon que moi j'ai retenue de ça, c'est que, en tout cas dans le cas de maman, l'aimer, c'était lui permettre de mourir, oui.
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera.
Il y a une chose qui me vient souvent à l'esprit, parce que j'ai été manger avec maman le jour de sa mort, enfin juste avant en fait, hein, on a mangé ensemble, et puis voilà, je l'ai accompagnée jusqu'à la dernière piqûre, et en fait j'ai fait une photo d'elle et moi, donc on a fait un selfie nous deux au restaurant de la maison de repos, donc 2 heures avant sa mort. Et je revois souvent cette photo parce qu'elle est en fond d'écran de mon téléphone. Et chaque fois, je me dis, je suis trop maquillée. et je pense que ça en dit long. Je crois qu'en fait, je voulais paraître en forme. Je voulais qu'elle ne me voie pas triste. Je voulais qu'elle ne voie pas que j'étais cernée, que j'avais l'air abattue. Et, Mais je me suis un peu trop maquillée quand même. Et je crois qu'on s'est un peu protégés, en fait, elle et moi. J'ai souvent cette impression qu'en fait, en essayant de faire comme si de rien n'était jusqu'au bout, on a voulu se rassurer l'une l'autre. Chacune des deux voulait dire à l'autre, c'est pas grave, tu vas voir, c'est qu'un mauvais moment à passer, quoi. J'ai voulu organiser quelque chose qui ressemblerait à des funérailles parce que maman avait donné son corps à la science aussi et donc en fait il n'y avait pas de corps et moi je me voyais pas je voyais pas les choses se terminer comme ça juste quoi assister à son euthanasie et puis quitter la chambre et puis fini et donc moi ça m'allait pas du tout, je me disais il faut quand même quelque chose, je crois fort au rituel, à l'importance de ben oui, notamment d'un rituel de deuil, et ça passe par des funérailles, quoi. Donc j'ai effectivement organisé quelque chose qui ressemblait à des funérailles, sauf qu'il n'y avait pas de cercueil, sauf qu'il n'y avait pas d'urne, il n'y avait rien, il y avait juste une photo de maman, il y avait des... Et ça, c'était perturbant aussi, parce que, pour des raisons d'agenda aussi, toutes bêtes, on a dû faire ça le lendemain de la mort de maman. Ce qui veut dire que il a fallu lancer les invitations alors que maman était encore vivante. Je garde l'impression d'avoir, d'une certaine manière, enfreint un tabou. Et en même temps, je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais bien que j'ai un peu lâchement essayé d'en parler à maman. Elle m'a très vite fait comprendre que ça ne l'intéressait pas du tout. Et je crois que quelque part, ça m'arrangeait bien aussi de ne pas aborder ça avec elle, parce que c'est quand même des conversations compliquées. On peut évidemment considérer qu'elle n'était pas à l'écoute. Je crois que c'est vrai. Je pense qu'elle n'était pas à l'écoute de ce dont moi j'avais besoin. Et aussi, quelque part, je me dis c'est un peu absurde. Enfin, j'allais pas demander à maman de me consoler parce qu'elle allait mourir, quoi. je pense que de nouveau on revient à cette idée de se protéger l'une l'autre. Je crois que c'était important que moi je lui fasse sentir que moi ça allait aller pour moi, que moi j'étais assez forte, que je dépasserais ça, que je surmonterais cette épreuve. Et je crois qu'elle a fait la même chose aussi. Je pense que... je ne saurais jamais, en fait, si... je suis un peu confuse, mais... quand ça s'est passé, on a dû attendre parce qu'il fallait les deux médecins, donc l'un des deux était là, l'autre est arrivé bien un quart d'heure, 20 minutes plus tard, donc il y a eu cette attente qui devenait de plus en plus bizarre, artificielle. Et dès que l'autre médecin est arrivé, elle a dit « Bon, où est-ce que je me mets ?» Comme si on venait faire une photo, quoi. Comme si on venait lui tirer le portrait. Et je la trouvais tellement, tellement sereine, tellement détachée. Et en même temps, je me disais, peut-être qu'elle fait ça pour pas m'inquiéter, quoi. Pour me montrer que pour elle, tout va bien. Mais oui, je pense qu'on s'est protégés l'une l'autre, oui, je crois. Je sais pas ce que j'ai ressenti. C'est vraiment compliqué. C'est bête d'avoir tellement de mal à dire des choses. Je veux dire, c'est pourtant un moment important, mais en fait, je crois que je m'étais fait un scénario dans la tête. Et que ce qui s'est passé était conforme au scénario. Donc je n'ai pas éprouvé d'émotions particulières. Il y avait quelque chose quand même de très... c'est pas vrai que je n'ai pas éprouvé d'émotions particulières, évidemment. J'étais tendue comme un arc, mais je veux dire que... Il y avait quelque chose de très confortable à savoir ce qui allait se passer. On n'est pas pris au dépourvu, on était là, on savait,
Enfin, je l'ai embrassé, je lui ai dit au revoir, je lui ai dit que je l'aimais. Et puis voilà, et puis le médecin a fait sa première injection et j'ai vu que maman s'endormait. Et puis il a fait sa deuxième, mais bon, elle a eu un petit râle, je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle a mal? Et puis j'ai posé la question, le médecin m'a dit non, et puis voilà, et puis c'était fini. Ça a été très 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 vite en fait. Et c'était très serein, je trouve. C'était beau en fait. Je veux dire, moi qui avais quand même en tête ce que maman m'avait dit, c'est-à-dire qu'il paraissait que c'était un spectacle épouvantable, je me suis dit, bah, c'est que ça, enfin, c'est beau en fait. C'est tout naturel, c'est... Oui. C'est serein, c'est rapide. Je suis à peu près certaine qu'elle n'a pas souffert. Et je sais que c'est ce qu'elle voulait. Ça a été une énorme leçon de vie à plusieurs égards, quoi. D'abord, je crois que mon rapport à la mort a changé. Plus exactement, mon rapport à la vie. C'est vrai qu'à un moment donné, quand je me rendais compte que j'avais finalement tellement de facilité à accepter la perspective de la mort de maman... je me disais, mais au fond, est-ce que ça veut dire que j'aime pas la vie, puisque j'ai tellement l'air, enfin, ça a l'air tellement facile pour moi d'envisager sa fin. Et puis en fait, je me suis dit, non, c'est justement parce que j'aime la vie que je veux pas d'une vie à n'importe quel prix, même pour moi. Ça aujourd'hui, c'est tout à fait évident. Je veux dire, j'adore la vie, je veux dire, vraiment, je crois que je suis quelqu'un qui croque la vie à plein dedans et qui parfois brûle la chandelle par les deux bouts. Mais si un jour je devais avoir l'impression que je suis plus qu'une espèce de petite bougie dont la flamme vacille et va s'éteindre d'un jour à l'autre, je sacralise pas la vie. Enfin, pour moi, ça, c'est pas de la vie, en fait, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a un cœur qui bat dans une poitrine qu'il y a de la vie. La vie, c'est pour moi, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Ça va de pair avec le plaisir, avec le désir, avec l'envie, en fait. S'il n'y a plus ça, alors à quoi bon et qui peut juger, quoi? Est-ce que la vraie question, c'est pas où j'en suis dans ma tête par rapport à ma vie, plutôt que quel est mon état de santé, quoi? Et moi, j'espère que je serai plutôt le genre de petite vieille qui se casse la gueule quatre fois en descendant la bordure parce qu'elle a encore voulu sortir toute seule, quoi. Enfin, voilà. Ça vraiment, j'espère garder en moi cette espèce de flamme qui me donne envie de faire des trucs qui sont peut-être pas très raisonnables, mais qui tiennent en vie, quoi. Mais en même temps, peut-être que je serai comme maman, fatiguée.
Confidence sur la cuvette.
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, même si je l'ai déjà dit, Être favorable à l'euthanasie, pour moi, c'est tout à fait compatible avec le fait d'aimer la vie et de vouloir défendre la vie. C'est juste que la vie, c'est plus que la simple existence biologique.
Apprendre à mourir, apprendre à faire mourir et à laisser mourir. Nadia a mis des mots sur cette réalité parfois difficile qui soulève notamment la question de liberté individuelle. Dans son livre « L'après-midi sera courte », elle propose un plaidoyer en faveur de l'euthanasie. Parler de la fin de vie, c'est essentiel, tout comme garder l'esprit ouvert. À bientôt.
Très bien. J'ai l'impression déjà, par exemple, que j'étais vraiment dans une espèce de réflexion sur moi-même, quoi, de retour en moi-même.